Le Bitcoin est un sujet très à la mode, surtout lorsqu'il faut parler de création de richesses. Ses records en 2021 font de cette monnaie un actif prisé et même des institutionnels s'y mettent. Un pays, le Salvador, a donné cours légal sur son territoire au Bitcoin, ce qui est une avancée majeure et historique. Est-ce que d'autres pays devraient suivre le pas du Salvador? Si oui, pourquoi? Pour répondre à ces questions, nous recevons Monsieur Emmanuel Haro. C'est un scientifique avant tout et il est convaincu que le Bitcoin est la crypto qui peut rendre le pouvoir aux agents économiques et même à certains pays d'Afrique. Ce n'est pas un économiste, mais son regard externe peut être tout aussi pertinent. Vous êtes sur le Mentor économique, le podcast. Je me nomme Baptiste Junior. Je suis serial entrepreneur dans la communication et les finances. Ce podcast vous permet d'être au plus près des acteurs économiques et financiers qui font évoluer le continent africain. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Junior.
Comment vas-tu Emmanuel?
Très très bien.
Tout va bien. Là, il est quelle heure en ce moment?
18h30 en France aujourd'hui.
Et t'es dans quelle ville de la France?
Alors voilà, je suis dans une toute petite commune de 300 personnes qui s'appelle Genton. Enfin, c'est perdu dans le fin fond entre Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres.
Sérieux, t'es dans une ville où il n'y a que 300 personnes, t'es sûr?
Ouais. Il y a les métropolitains et puis il y a les campagnards. Et moi, je fais plutôt partie des campagnards.
Ouais. Ouais, mais après c'est pas comme si pour moi c'était nouveau, tu vois. Moi je suis dans une capitale où il y a environ 2 millions de personnes. C'est pas commun de voir 2 millions de personnes dans une capitale, tu vois.
Oui.
En plus de ça, j'ai un pays de 342 000 km² qui n'a que 4 millions ou 5 millions d'habitants. Je crois, on sait pas trop, mais je crois ça aussi vers là.
D'accord, donc la moitié de la population habite dans la capitale, quoi.
Ouais, la moitié de la population habite dans la capitale. Bon, on espère que d'ici là, on va avoir l'exode parce que avant on avait eu l'exode rural. Donc on espère que d'ici là, on aura l'exode urbain. Donc les gens, ils vont quitter les villes pour repartir dans les villages, comme ça. Oui, d'accord, oui. ça va peut-être emmener un souffle nouveau au niveau des localités aussi.
Ah bah on a ça un petit peu en France aussi. Enfin là, avec le Covid, là par exemple, là, on a de fortes demandes du coup, oui, vers la campagne,
ouais. Parce que ouais, vers la campagne.
Ouais, donc, les gens enfermés dans les appartements, c'était pas.
Ouais, non, c'était pas. Non, il y avait rien de drôle en tout cas, c'est ouais. Sûr. Alors donc, Emmanuel, moi, ce que je veux, c'est déjà que tu puisses te présenter pour mes abonnés.
Hein. Oui, pas de souci. Donc du coup j'ai 38 ans, j'ai une scolarité classique du coup en France, j'ai passé un bac scientifique, j'ai enchaîné avec une école d'ingénieur généraliste du coup en France. Suite à ce diplôme, je me suis lancé dans l'enseignement, j'ai fait 9 ans de professorat en tant que prof de sciences physiques. Vraiment le côté scientifique me plaisait beaucoup. Et puis il y a 6 ans, du coup je suis reparti plutôt dans le privé, donc j'étais dans le public. Professeur. Je suis parti dans le privé. Aujourd'hui, je suis chef de projet, aussi ce qu'on appelle le Scrum Master avec avec l'agilité. Et puis à côté de ça, du coup, j'ai eu d'autres petites activités. Il y a 9 ans, j'ai commencé à investir du coup de l'argent dans l'immobilier. Parti entre guillemets de rien, hein, parce que je fais partie d'une famille modeste à la base. Et voilà, donc maintenant j'ai un peu de placement dans l'immobilier. Et puis il y a 3 ans, j'ai découvert ce qu'étaient les crypto-monnaies. Et j'ai commencé également depuis 2 ans là, à investir un peu plus sérieusement du coup dans tout ce qui est crypto-monnaie.
D'accord. Alors, effectivement, je pense que nous, on s'est rencontrés, c'était sur un post, je pense, c'est un post sur LinkedIn, un post qui parlait effectivement du franc CFA. On m'a tagué dessus et quand je suis arrivé, c'était toi qui l'avais partagé encore sur LinkedIn. Et moi, j'ai été poigné par le message en fait qui suivait le repartage du lien, parce que effectivement, je tombais sur, je vais dire ça, un frère européen qui pour la première fois voit, j'écoutais des mots qui étaient poignants, des mots qui auraient pu sortir d'un Africain.
Mais ça sortait pas d'un Africain, ça sortait d'un Européen, voilà. Et donc, du coup, il y a d'autres posts que j'ai pu lire, d'autres articles aussi que j'ai pu lire, où tu parlais de la crypto-monnaie. Mais moi, lorsque tu entends, par exemple, Bitcoin, qu'est-ce que pour toi ça évoque, du coup, si je te dis Bitcoin ?
Alors, d'abord, merci pour ton retour. Ça me fait plaisir déjà sur le post. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Enfin, avant de démarrer sur Bitcoin, une petite phrase. Je dis souvent, je me sens davantage humain qu'européen ou que même français. Ben, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est je préfère regarder s'il y a quelque chose qui est entre guillemets juste pour l'ensemble de l'humanité. Et ensuite, je me sens ok, un peu plus européen évidemment et un peu plus français, mais avant tout humain. Quand j'ai découvert Bitcoin, alors au début, je vais être tout à fait franc. Hein, c'était en 2017, c'est quand son prix a explosé vers les 20 000. Et là, j'étais vraiment entre guillemets en mode joueur. J'ai entendu parler de ce truc-là. Je me suis dit, tiens, je vais y mettre 200 euros. Je ne sais pas quels sont vos salaires là-bas, mais pour moi, ça représentait 10% de mon salaire mensuel. Voilà, j'ai mis une petite part, du coup, à ce moment-là. J'ai gagné un peu d'argent, puis j'ai recommencé et j'ai tout perdu. Et là, du coup, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, oh, c'était un truc à la mode spéculatif, tout le monde parlait de bulles. Et du coup, j'ai délaissé. J'ai délaissé ça. Et puis, un an plus tard, j'ai vu son prix qui restait vers les 6 000, je crois. Et là, je me suis dit, tiens, c'est étrange parce que quelque chose qui n'a pas de valeur, pour moi, du coup, OK, il peut y avoir un emballement, une bulle qui se crée, et puis ensuite, paf, ça retombait à zéro. En tout cas, c'était l'image que j'avais d'une bulle. Et du coup, là, ça m'a intrigué. J'ai été curieux et donc je me suis mis à lire les 9 ou 10 pages, je ne sais plus, du livre blanc de Satoshi Nakamoto. Et là, j'ai pris une véritable claque. Une claque technologique, entre guillemets. Donc, je connais un peu tout ce qui est, évidemment, enfin, je suis dans l'informatique, etc. Et puis, j'ai fait des études de sciences. Et là, la personne était en train d'expliquer un véritable système autonome qui fonctionne pas tout seul, mais en tout cas de manière très décentralisée. Ça veut dire il n'y a pas quelqu'un qui dirige cela. Et là, j'ai été un peu subjugué. Quoi. Je me suis dit, c'est fou, ça existe. Quoi. Maintenant, on peut faire ça. Donc, il y en a beaucoup qui disent que l'Internet a permis de démocratiser l'information. En fait, ce n'était plus des médias ou des journaux, etc., qui transmettaient l'information. Ça l'est toujours. Mais Internet a permis que chaque personne dans le monde, en tout cas, si ils ont accès à Internet, puisse diffuser de l'information, ce qui n'était pas possible. Et le parallèle qu'on fait souvent, du coup, avec les crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies et Bitcoin, en l'occurrence, permet maintenant de diffuser et de détenir de la valeur sur Internet. Donc, on n'avait jamais pu transmettre de la valeur sur Internet. Jamais. C'était pas possible. L'exemple que souvent prennent les personnes qui expliquent cela, prennent l'exemple d'un mail. Si je vous écris un mail, le mail, je l'ai, vous l'avez, je peux le copier, je peux l'envoyer à plein de personnes. Donc, c'est pas une transmission de valeur. C'est je copie quelque chose. C'est vraiment de la copie. Alors que, du coup, sur les blockchains publics et dont celle de Bitcoin par exemple, lorsque j'envoie mon Bitcoin, je ne l'ai plus. Là, c'est vraiment le transfert de valeur avec ce problème de double dépense, etc., qu'on connaît un peu en économie. Bref, on est capable maintenant avec ces blockchains de se passer de la valeur. Et ça, c'est une véritable révolution.
Alors, mais voilà, cette révolution, elle est là, elle est belle. Je pense qu'il y a vraiment un progrès technologique, mais maintenant, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que fondamentalement ça change par rapport au système traditionnel que nous avons déjà? On se transmettait de la valeur avec des billets de compte à compte. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui différencie le Bitcoin à part l'aspect technologique? L'aspect Internet, qu'est-ce qui fait la différence avec ce système traditionnel ?
L'énorme différence. En fait, par rapport au cash, Bitcoin est un peu l'équivalent du cash, des billets. C'est-à-dire qu'un billet, si vous avez un billet, alors je ne sais pas si c'est le franc CFA ou pas.
C'est le franc CFA, oui.
CFA. Du coup, si vous échangez un billet de 10 francs CFA chez vous, eh bien là, effectivement, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez le donner à qui vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci avec. Et ben, Bitcoin fait la même chose. La vraie révolution là-dedans, c'est que dès que vous passez par autre chose que le cash, vous passez systématiquement par ce qu'on appelle un tiers de confiance, une banque.
D'accord. D'accord.
Et là, évidemment, la banque, c'est elle qui détient votre argent. C'est pas vous. D'ailleurs, on a eu, en tout cas en Europe, alors je sais pas comment ça s'est passé en Afrique après la crise des subprimes en 2008, mais le système bancaire a failli complètement s'écrouler à ce moment-là. Parce que les banques avaient fait un peu n'importe quoi. Et du coup, le système bancaire était en train de s'effondrer. Et là, du coup, on a commencé. Alors, il y a eu la Grèce notamment qui a été touchée en Europe, où on a, en fait, les banques ont eu porte fermée, quoi. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont voulu aller récupérer leur argent, c'était pas possible. Et là, je crois qu'il y a eu une prise de conscience aussi que quand l'argent est dans les banques, l'argent ne vous appartient pas. Ce n'est plus vraiment le vôtre. Ils vous le prêtent. Et Bitcoin permet de redonner l'argent aux gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai acheté des bitcoins, je ne les ai pas laissés sur les fameuses plateformes centralisées, je ne sais pas si vous connaissez Coinbase, Binance
et Consort.
Voilà, les grosses plateformes sur lesquelles on peut acheter des crypto-monnaies, mais ensuite on peut les rapatrier. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on peut les détenir et là, du coup, c'est vous qui gérez votre argent. C'est plus une banque, c'est plus un tiers de confiance. Et le problème, c'est que les tiers de confiance, comme son nom l'indique, il faut leur faire confiance. Et le Bitcoin a été créé suite aussi à une méfiance de ce système bancaire lorsqu'en 2008, il a failli s'écrouler. Mais vraiment, je pense que peu de gens d'ailleurs ont vraiment conscience que le système bancaire à ce moment-là a vraiment failli tomber par terre. Et il a été sauvé. Il a été sauvé par les banques centrales. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pris conscience que l'argent, aujourd'hui, il est dans les mains de certains. Et du coup, potentiellement, on peut ne plus avoir ce qu'on considérait comme notre argent. Du coup, il y a des limites maintenant depuis. Alors, je n'ai pas des comptes en banque qui atteignent ces montants-là, mais il y a des personnes qui vont détenir plus de 100 000 euros en Europe. Les banques, en tout cas en France, garantissent jusqu'à la hauteur de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'au-dessus, si vraiment il y a une crise, etc., du coup, ils perdent leur argent. Mais finalement, on s'est rendu compte aussi que s'il y avait une vraie grosse crise bancaire, je crois que c'est à Chypre notamment, ou à Chypre, les banques ont prélevé l'argent, l'État plutôt a prélevé l'argent chez les comptes des particuliers.
Mais est-ce que parce que lorsque on le voit en comparatif de ce qui s'est passé, on va dire en Europe occidentale, on a plutôt l'impression que avec la crise qui a été emmenée par le Covid, on a plutôt au lieu que les États aillent prendre dans les comptes, ils se sont mis à imprimer du billet. Nous, depuis un moment, on a l'impression qu'on fait sortir de l'argent de partout, quoi. C'est-à-dire, on a un problème, on va continuer à imprimer. Là, en ce moment, je ne sais pas si c'est confirmé, mais je pense aux États-Unis, j'entendais déjà que le président Joe Biden allait faire des types d'allocations pour chaque enfant de $300. Mais cet argent, elle sort d'où? Et ce qui peut être frustrant pour d'autres pays, c'est que il y a d'autres pays qui eux n'ont pas ce moyen de ils peuvent pas aujourd'hui toucher cette manivelle là. Voilà.
Oui. Tout ce qui est système monétaire, en fait, quand je me suis intéressé à Bitcoin, j'ai voulu comprendre aussi comment fonctionnait le système actuel. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était une vraie révolution, entre guillemets, technique, parce que du coup, on allait pouvoir faire ça sur Internet. Mais du coup, pareil, ça a attisé ma curiosité sur l'économie. Et du coup, là, je me suis dit, mais comment ça fonctionne aujourd'hui? Qui décide de créer la monnaie aujourd'hui?
Mais donne-nous les conclusions de ce que tu as dit.
Et du coup, alors, les conclusions de ça, alors, il y en a plusieurs. Alors, je vais remonter un petit peu dans l'histoire, un tout petit peu. La monnaie était principalement fabriquée avec de l'or, hein, au départ. Enfin, c'était tout ce qui était monnaie, c'était l'or et l'argent. Et du coup, l'or, pendant très longtemps, a été l'étalon. Si on remonte un petit peu dans le temps, il y avait les orfèvres. Et du coup, on venait confier, à un moment donné, si vous voulez, comment dire, transmettre de l'or pour faire du commerce, etc., c'était pas très très pratique, parce que bon, bah, si vous vouliez faire des grosses transactions, fallait transporter l'or, c'était pas hyper sécurisé parce qu'on pouvait se faire voler, etc. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu compliquées. Donc les orfèvres ont pris un petit peu ce rôle là et est apparu ce qu'on pourrait considérer comme des chèques ou des reconnaissances de dette à ce moment-là. Les orfèvres, du coup, ont dit, bah, écoutez, amenez-nous votre or, et puis nous, on va vous signer un papier vous indiquant que bah, voilà, vous détenez 1000 francs CFA d'or. Voilà. Et avec ça, vous pouvez aller commercer si vous voulez. À partir de ce moment-là, je dirais que ça a été le début de la dérive, quoi. Alors, pourquoi le début de la dérive ? Parce que, on le sait, l'être humain est assez avare. Et du coup, il en veut en général toujours plus. Et ce qui s'est passé, c'est que les orfèvres, à ce moment-là, ont décidé de dire, bon, c'est un peu dommage parce que on a plein d'or dans nos coffres et les gens viennent rarement le chercher. Donc, de temps en temps, oui, mais on va dire, allez, si je prends une proportion, je ne sais pas, 10% de l'or finalement tournait, mais 90% restait dans les coffres. Et à ce moment-là, les orfèvres se sont dit, bah, c'est un peu dommage, quoi, du coup, parce que personne ne vient le chercher. Donc, ce qu'on va commencer à faire, on va commencer à donner plus de chèques, plus de reconnaissance de dette que ce que nous avons dans les réserves. Et donc ça, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les réserves fractionnaires. Ça veut dire, on détient un certain montant, je détiens 1000 francs CFA d'or dans mon coffre, mais je vais déclarer pouvoir en prêter 10 000. Et donc là, je crois que ça a été pour moi, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, la création monétaire, c'est le début de la fin, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous commencez à dire « je peux prêter plus que ce que je n'ai », là vous rentrez dans un système qui commence à être très dangereux. Donc du coup, les réserves fractionnaires existent aujourd'hui, elles existent entre les banques centrales et les banques commerciales, c'est-à-dire que les banques commerciales peuvent « distribuer » entre guillemets de l'argent à partir du moment où elles détiennent, à partir du moment où la Banque centrale, par exemple, va détenir à peu près 10% de l'argent qui va être dépensé. Alors évidemment, cette proportion, elle varie hein, en fonction des États, en fonction des pays. Mais par exemple, j'ai appris que Royaume-Uni, il n'y avait pas de limite. Il n'y a pas de limite de réserve dans la Banque centrale. Donc bon, il y a des choses assez étonnantes là-dessus qu'on découvre quand on voit ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passe du coup en Afrique sur les banques, mais en France, du coup, pour comprendre vraiment la création monétaire, il faut comprendre que lorsque je vais voir ma banque pour acheter une maison, donc une maison en France, on va dire que c'est entre 100 000 et 200 000 euros, je dis à mon banquier, j'ai besoin de 150 000 euros pour pouvoir acheter ma maison. Eh bien, la banque, à ce moment-là, va créer ex nihilo, de rien, elle va créer cet argent. Cet argent n'existe pas avant que je fasse mon prêt. C'est moi, en demandant le prêt, la banque, sur son livre de compte, indique « nous allons créer 150 000 euros ». C'est pour ça qu'on appelle ça la monnaie dette. C'est aujourd'hui, c'est le terme qui est employé à chaque fois, c'est monnaie dette.
Donc, proof of debt, quoi.
Ouais, à partir du moment où on fait un emprunt, paf, on crée la monnaie. Cette monnaie est ensuite supprimée lorsqu'elle est remboursée, mais en fait, on est dans une espèce de course en avant. C'est-à-dire que pour créer de la monnaie, il faut toujours faire de la dette, toujours emprunter. Alors, ce qui est assez paradoxal, je ne sais pas ce qu'il en est en Afrique, mais en Europe, on nous répète et on nous rassasse souvent « Oh là là, faites attention, notre dette publique est en train de gonfler et donc il faut absolument se serrer la ceinture parce qu'il faut qu'on rembourse les dettes. » Ce qu'on comprend assez facilement, c'est-à-dire que moi, je suis un citoyen, quand j'ai des dettes, si j'ai du mal à les rembourser ou si ma dette augmente, évidemment que je me serre la ceinture parce que au bout d'un moment, on va me rattraper, on va me prendre ma maison, etc. Donc, la plupart des citoyens acceptent ça. Ils se disent « Ah ben oui, ils ont raison, on est en train de faire gonfler notre dette, alors il faut qu'on la rembourse. » Mais en fait, ce que les citoyens ne savent pas, c'est qu'en fait, tout le système est fait pour qu'on emprunte encore et encore et encore. Et la dette, en fait, si on la regarde depuis les années 70, la dette explose. Elle augmente de plus en plus, et pas qu'en Europe. Hein, les États-Unis sont les champions de la dette. Les dettes, en fait, augmentent de plus en plus. Nous ne les rembourserons jamais. C'est sûr. Non, mais ça, c'est même pas un mythe. Je veux dire, quand on regarde les courbes de 70 à 2020, on voit bien qu'aucun État qui fonctionne avec cette monnaie dette, donc à peu près tout le monde, toute la planète, aucun de ces pays ne remboursera leur dette. Et donc, du coup, on vit avec ça. Enfin, et le général de Gaulle disait en 70, donc si je reviens alors, pour refaire un tout petit peu d'histoire, il y avait les talons or, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les banques des différents pays s'étaient entre guillemets mis d'accord pour dire voilà, si on a tant de réserves d'or, alors on peut créer tant de monnaie. Puis sont arrivées les guerres mondiales. Et lorsque les guerres mondiales sont arrivées, évidemment, du coup, il fallait construire plein d'armes, il fallait mobiliser plein d'industries, etc. Et donc là, bah là, on a dit on s'assoit gentiment du coup sur les réserves d'or et tant pis. Allez hop, on explose, on fabrique du billet, on y va, et du coup, on va faire marcher l'économie comme ça. Donc, pour faire la guerre, là, du coup, les talons or, on s'est assis dessus.
D'accord.
Du coup, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, arrive, du coup, donc là, on voit bien que les économies certaines explosent parce que, bah, du coup, doivent rembourser plein de dettes parce que ce sont les perdants, etc. Donc, à la fin, il y a ce fameux accord de Bretton Woods qui dit, du coup, les gars, on arrête de faire n'importe quoi, et du coup, il faut qu'on ait cet étalon or, là, il faut qu'on ait des réserves d'or pour pouvoir créer de la monnaie. Et à ce moment-là, les États-Unis, grands gagnants du coup de la Seconde Guerre mondiale et du coup grands gagnants du monde entier quasiment à l'échelle mondiale, se retrouvent finalement avec quasiment toutes les réserves d'or. Ils avaient, je crois, entre 80 et 90% des réserves d'or. Donc, ils dominaient le monde, quoi. Ce moment-là, ils avaient absolument tout. Et ils ont imposé, du coup, vu qu'ils avaient les plus grosses réserves d'or, ils ont imposé à ce que les échanges internationaux entre tous les pays se fassent en dollars.
En dollars.
Donc là, à partir de ce moment-là, ils ont la main, finalement, sur toute la monnaie du monde, quoi. Puis, dans les années 70, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a des réserves, on a tendance à vouloir en prêter ou en donner plus que ce qu'on a, eh bien, les États-Unis ont fait ça. Ils se sont mis à imprimer beaucoup plus de billets que ce qu'ils n'avaient de réserves. La France, notamment, donc via le général de Gaulle, se sont rendus compte évidemment de ça, et du coup, ont commencé à dire aux Américains, pop, 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 stop, on va arrêter les gars, on vous rend vos dollars, et on va récupérer notre or. Donc on va refaire un échange. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des dollars, eh ben on leur dit on va racheter les réserves d'or. Donc il n'y a pas que la France qui a fait ça, il y a d'autres pays du coup qui ont emboîté le pas. Et là, évidemment, les États-Unis ont été en grande difficulté parce que du coup, ils ne pouvaient pas rembourser l'or puisqu'ils avaient prêté beaucoup plus que ce qu'ils n'avaient. Donc là, à ce moment-là, le président américain, dans les années 70, dit de manière unilatérale, tout seul, il dit « les talons or, c'est fini !»
C'est mort.
Donc là, enfin, c'est quand même incroyable parce que pendant des années, du coup, on met les talons or pour éviter que les pays ne fassent n'importe quoi. Lorsque les États-Unis se rendent compte que leurs réserves d'or sont en train de fondre comme peau de chagrin, ils disent « les réserves d'or, c'est terminé !»
Là, on parle de qui, là? C'est qui? C'est Nixon?
Oui, il me semble que c'est Nixon, oui, qui prend la décision, du coup, d'arrêter cet étalon or. Ouais. Et donc, à partir des années 70, du coup, toutes les monnaies, finalement, sont les unes par rapport aux autres. Et ce qui est assez terrible, alors, ce que j'ai découvert, là, tu parlais d'un poste tout à l'heure, c'est que j'avais déjà compris auparavant que le dollar dominait le monde. Donc après 70, ils avaient les réserves d'or, ce qui leur permettait d'avoir la domination totale, on va dire. Après 70, du coup, ils se sont débrouillés avec les pays producteurs de pétrole pour que du coup, tous les échanges en pétrole se fassent en dollars. Pour la plupart des citoyens, on se dit que c'était pas grand-chose. En tout cas, je pense que pas beaucoup se disent « Oh oui, bon bah ok, le pétrole s'échange en dollars. » Mais en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que toute notre économie, l'économie mondiale, est basée sur le pétrole. Toute. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fabrique, de toute façon, a besoin d'énergie. Et aujourd'hui, la grosse part de l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner des machines, etc., bien souvent a besoin de pétrole. Tous les transports, etc., ont besoin de pétrole. Donc, le pétrole, c'est la source d'énergie qu'on peut facilement transporter, etc., donc qui est très, très pratique. Et donc, par ce biais, en prenant le dollar et le pétrole, du coup, il domine absolument le monde. Le deuxième truc, le poste que j'ai découvert et qui m'a assez frappé, c'est que c'est vrai que dans les écoles françaises, on nous enseigne qu'il y a eu le colonialisme, du coup, en Afrique, hein, et que du coup, nous étions, enfin, les personnes qui dominaient, entre guillemets, les pays africains à ce moment-là, mais pas que la France, mais d'autres, hein, en Afrique.
Oui.
Et puis, on apprend dans les livres, moi je suis né en 82, on apprend dans les livres que bah, du coup il y a eu les guerres d'indépendance et que du coup chaque pays d'Afrique a commencé à prendre son indépendance et du coup à ne plus avoir de, comment dire, n'était plus dirigé entre guillemets par la France. Et puis nous sommes en 2020, j'ai 38 ans, j'ai suivi une éducation et puis je suis allé à l'école très longtemps et je découvre en 2020 que la France détient la moitié des réserves de monnaie de certains pays encore d'Afrique.
Et ouais, là, notamment ceux du franc CFA, donc de la monnaie que j'utilise.
Et notamment ceux du franc CFA. Et là, c'est vrai que, enfin, je prends une véritable claque en tant que Français et en tant qu'Européen, parce que je pensais très sincèrement, sans doute très naïvement, mais je pensais que on était très très loin de ça, quoi, que ça n'existait plus, qu'il y avait plus de mainmise entre guillemets. Alors évidemment, on entend parler de corruption, etc. Donc ça, évidemment, on n'est pas naïf. On sait que ça peut exister, les pots de vin, on achète des gens, etc. Ouais. Ok, ça existe dans l'entreprise, l'industrie. Mais qu'un État comme la France détienne encore des parties des réserves de banques africaines, ça, j'avoue, oui, ça a été difficile à accepter en fait parce que on se sent terriblement coupable. Coupable, non pas parce qu'on se sent responsable, moi, à ma propre petite échelle, mais plutôt une culpabilité de naïveté, quoi. On nous a enseigné quelque chose, mais on nous enseigne que ce qu'on veut. On nous dit qu'il y a des choses qui se sont passées, mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas, quoi. Et je pense que si on enseignait aux jeunes Français et jeunes Européens que les pays encore européens occidentaux détiennent des grosses parts de réserves de banques africaines, je pense qu'il y aurait quand même une réaction au sein des Européens. Le problème, c'est que ça ne se sait pas, mais vraiment.
Je pense que vous êtes aussi surpris que nous-mêmes, nous sommes surpris aussi. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai fait des études en finance, c'est-à-dire je suis financier à la base. J'ai fait des études de finance, mais je pense la première personne, déjà c'est sur Internet que je viens me rendre compte de ça, c'est-à-dire que dans les écoles, personne ne nous dit que le franc qu'on est en train d'utiliser dehors, qu'à la fin, quand on l'appelait franc CFA, et qu'on va le dire avec une certaine aisance que à la base, l'acronyme voulait dire franc des colonies françaises d'Afrique, et qu'après, on a juste fait une manipulation très rapide pour mettre, franc de la communauté, financière africaine. Ça veut dire qu'on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas ça. Et on finit par le découvrir à force de recherche. On finit par le découvrir à force de recherche. Et moi, j'ai fait mes études au Maroc. Donc, au Maroc, il y a le professeur d'économie monétaire. Quand il m'a mis ça sur la table et il me l'a expliqué par A plus B, j'étais, de toute façon, je suis au Maroc. Moi, je suis pas chez moi. Mais c'est le monsieur, le Marocain, qui me dit, voilà ce qui se passe chez toi. Voilà ce qui est en train de se passer. Et lorsque ton pays, avec ses énormes réserves et tout ça de pétrole et consorts, quand il essaye de devenir un pays pauvre et très endetté, et rentrer dans un programme PPTE, il me dit que c'est une aberration. Il me dit que c'est pas possible. Tout le monde dans le monde cherche à devenir un pays développé, un pays en voie de développement. Et vous cherchez à devenir, à prendre un statut de pays pauvre, très endetté. Ça veut dire que mettre ce fardeau sur la tête pour qu'on puisse quelque part vous alléger vos dettes. C'est même très dégradant. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que peut-être on va pas revenir. Moi, je viens pas pour dire que c'est la responsabilité, que ça soit des Européens, que ça soit des Français, que ça soit la responsabilité de nos chefs d'État. Non, c'est pas ça. Moi, aujourd'hui, on est face à quelque chose de neuf. C'est la crypto-monnaie.
Oui.
C'est la crypto-monnaie. Clairement, aujourd'hui, quelle peut être l'opportunité pour les Africains d'adopter cette monnaie ?
Eh bien, du coup, si tu veux, la crypto-monnaie, justement, quand on voit toutes ces décisions là dont on a parlé, l'or, le pétrodollar, bref, tout ce qui s'est passé, justement, qui a fait quoi, etc., en termes de responsabilité, ce sont des personnes qui détiennent ce pouvoir. Mmh. Clairement, il y a quelques personnes, et ils ne sont pas élus, qui détiennent les banques centrales, etc. Donc, c'est eux qui manipulent l'économie de l'ensemble de la planète, et ils ne sont pas élus. Déjà, ça, c'est quand même assez incroyable, parce que j'ai vu une vidéo de deux personnes qui échangeaient sur le sujet à un moment donné, et en fait, ils parlaient des cinq pouvoirs. Les cinq pouvoirs, le pouvoir de l'exécutif, donc le président chez nous, le pouvoir du législatif, de rédiger les lois, le pouvoir du judiciaire, de juger, et ensuite les deux autres pouvoirs qui sont un peu moins connus, qu'on n'enseigne pas trop à l'école, le quatrième qui est le pouvoir de la presse, donc c'est un pouvoir immense que de pouvoir faire de la communication, donc qui a été un peu mis à mal avec Internet, et le cinquième pouvoir qui est le plus puissant de tous, c'est le pouvoir de l'argent. Parce que celui qui détient l'argent peut même acheter la presse, donc le quatrième pouvoir, et du coup manipuler un peu l'ensemble des trois autres pouvoirs. Je me suis rendu compte avec ma petite curiosité là, qui m'a amené avec Bitcoin, etc., que quand on parle de la presse, par exemple, eh bien, en France, 95% de la presse est détenue par des grands groupes. La presse n'est pas indépendante. La presse n'a pas, entre guillemets, aujourd'hui en France, la vocation de regarder un sujet et d'essayer de voir les pour, les contre, etc. Donc, il y a des personnes qui contrôlent aujourd'hui la monnaie et qui contrôlent l'argent. Ils ne sont que quelques-uns, on va dire, par rapport à des milliards. Pas peu. Et les crypto-monnaies, Bitcoin et les autres, permettent aujourd'hui de redonner ce pouvoir aux gens. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que quand je dis ça redonne le pouvoir aux gens, c'est lorsque vous l'achetez, vu qu'il n'y a personne aux manettes, parce qu'il n'y a absolument personne, contrairement à ce que certains médias ou certaines banques voudraient essayer de faire passer comme information, aujourd'hui, il n'y a personne. Il y a des gens qui valident les transactions, ce qu'on appelle les mineurs. Ils valident, mais ils n'ont aucun pouvoir sur la création monétaire. Bitcoin, son émission, elle est prévue depuis 2009. Elle n'a jamais dérogé. Le protocole n'a jamais été mis en défaut. Donc, ça fonctionne. Ça fait 12 ans que ça marche. Et du coup, personne ne peut contrôler ça. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que pour la première fois dans l'humanité, le pouvoir de l'argent n'appartient plus à quelques-uns. Le pouvoir de l'argent, il a été informatisé, protocolisé, si vous voulez. Je sais pas comment. C'est-à-dire que là, du coup, personne n'a son mot à dire. C'est-à-dire que même si les États-Unis disent « oui, mais non, le Bitcoin, c'est pas bien », etc., Bitcoin est utilisable par tout le monde et les États-Unis ne peuvent pas modifier ce truc-là. La France ne peut pas modifier. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi, moi, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai très vite pensé aux pays émergents. Parce que, même si je n'avais pas confiance que la France avait des réserves, etc., j'avais quand même bien conscience qu'aujourd'hui, nous sommes un pays riche. D'ailleurs, je vais assez loin parfois, je suis allé assez loin une fois, j'ai rédigé un article, des articles sur LinkedIn, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 5 ou 6, mais à la fin de l'un d'eux, je déclare qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'esclavage soit terminé. En fait, c'est un autre type d'esclavage que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes occidentaux, nous sommes les consommateurs de beaucoup de pays producteurs, mais qui finalement travaillent pour nous, quoi. Et en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, les pays occidentaux, et c'est un des problèmes par rapport à l'économie, c'est qu'en fait, nous ne produisons pratiquement plus rien. C'est-à-dire qu'on ne fabrique quasiment plus rien. Nous sommes des sociétés de services, Et en fait, nous achetons à d'autres pays ce que produisent. Et quand je, pourquoi je vais jusqu'au terme d'esclavage? Alors, non pas de comparer la traite, etc., mais un esclavage dans le sens où on paye des gens une misère par rapport à ce qu'on gagne nous pour pouvoir nous fournir plein de produits. Et donc ça, c'est une espèce de forme d'esclavage, parce que tant que vous ne permettez pas à ces gens de revenir à votre niveau de vie à vous, eh bien finalement, vous continuez de les instrumentaliser. Enfin, en fait, c'est aussi pour ça que la plupart des entreprises se sont délocalisées d'Europe. C'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle, nous, de la main-d'œuvre à bas prix, quoi. C'est, on a des gens qui fabriquent plein de choses pour nous et qu'on paye, entre guillemets, presque au lance-pierre par rapport à ce que nous, on peut gagner aujourd'hui. Et ce qu'on gagne aujourd'hui avec de l'argent qui est créé ex nihilo, hein, de l'argent qui est créé de nulle part, quoi.
Ouais.
Donc, moi, j'ai vraiment, enfin, quand même toujours eu la sensation finalement que les pays occidentaux maintiennent leur pouvoir historique via la monnaie, du coup, via l'argent. On arrive à maintenir les pays émergents, on va dire, en bas, et nous, comme ça, on reste au-dessus, même si finalement, on fournit beaucoup moins d'efforts que ce que ne peuvent fournir ces pays-là.
Ouais, mais en ce moment, le Bitcoin est en train de faire des émules. Bah tout de suite, les États veulent récupérer parce qu'ils voient bien que le Bitcoin a un certain succès. Les autres cryptos aussi, d'ailleurs, hein, les autres coins et même les tokens ont énormément de succès, et ils sont en train de travailler sur des monnaies digitales de banque centrale. Ton avis sur les monnaies digitales de banque centrale, tu penses qu'aujourd'hui ça peut être un nouveau modèle qui va faire que le Bitcoin puisse perdre de l'incidence sur l'économie telle que parce que là il y a clairement une croissance, clairement le Bitcoin, les crypto-monnaies sont en train de croître. Est-ce que ça peut être freiné par les MNBC là?
Alors d'abord les MNBC ou CBDC en anglais, les monnaies numériques de banque centrale, pour moi, et c'est un avis, c'est une arnaque. C'est une arnaque pure et dure, quoi. Alors, d'ailleurs, on a la directrice de la Banque Centrale Européenne, c'est Christine Lagarde, hein, c'est une Française. Donc, on a la chance, entre guillemets, d'avoir cette personne de temps en temps faire des interviews sur les télés françaises. Et elle a été très en difficulté pour expliquer quel est l'apport de ces monnaies numériques de Banque Centrale. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en Europe, le cash n'existe quasiment plus. Nous payons quasiment tout avec des cartes bancaires ou par virement bancaire, on utilise PayPal, tout est digital, il n'y a plus rien, enfin quasiment plus rien, il n'y a pas beaucoup de cash. Et d'ailleurs, le cash, ils veulent l'enlever, quoi. Les banques centrales ont un objectif, c'est d'enlever le cash, pour la simple et bonne raison que le cash, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent de Bitcoin, c'est-à-dire que c'est un des seuls moyens encore aujourd'hui pour se passer de l'argent entre nous, sans qu'ils soient au courant. Alors évidemment, il y a des abus là-dessus avec les blanchiments, le caractère illicite, etc. Mais n'empêche que ça fait partie aussi d'une certaine liberté de dire que si moi j'ai envie de donner 20 euros à un pote, bah, j'ai pas envie forcément que l'État français ou la Banque centrale sache que j'ai donné 20 dollars à quelqu'un d'autre. Alors, les monnaies numériques de Banque centrale, est-ce qu'elles peuvent freiner? Je pense que oui. Je pense que les monnaies numériques de Banque centrale peuvent freiner les crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas aujourd'hui beaucoup renseignés sur qu'est-ce qu'une crypto-monnaie. Du coup, ils vont entendre, vu qu'en plus la presse est largement orientée avec l'État, etc. Donc, il y a beaucoup de diffusion d'informations qui sont à la limite du mensonge. Et bien du coup, ça va être présenté comme « Mais non, mais regardez, Bitcoin, c'est dangereux, c'est volatile, c'est beaucoup. Nous, on invente la monnaie numérique de banque centrale. » Mais les gars, la monnaie numérique de banque centrale, elle existe déjà aujourd'hui. C'est celle que vous nous donnez en ce moment, avec des inconvénients pour nous, pas pour eux. Pourquoi ? Parce qu'avec une monnaie numérique de banque centrale, d'ailleurs, les premiers qui ont fait ça, les premiers qui sont en train de la mettre en place, c'est la Chine. Et alors, je ne sais pas quel est le degré de connaissance des Africains sur le pouvoir chinois et comment ils mènent leur politique. C'est très, très conservateurs et très protectionnistes, c'est-à-dire qu'ils veulent tout contrôler. Donc, la Chine a un énorme intérêt à diffuser leur yuan, leur monnaie numérique de banque centrale, c'est pour pouvoir contrôler absolument tout le monde. Ils veulent contrôler ce que font leurs citoyens pour savoir où est-ce qu'ils mettent de l'argent, est-ce que ça fait marcher le pays, sinon, enfin, on est dans un contrôle total, quoi. C'est un peu le Big Brother, bref, la surveillance en permanence. La monnaie numérique de banque centrale, en Chine en tout cas, pour sûr, ce sera ça. C'est-à-dire qu'un outil de surveillance incroyable, de contrôle incroyable, sans limite d'émission. Parce qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on imprime des billets à tort et à travers. Mais avec une monnaie numérique de banque centrale, ça ne changera absolument rien. C'est-à-dire qu'il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour faire un x 10. Enfin, c'est très Donc, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas de... Le seul contrôle, il est dans les mains de ces gens-là. Donc, je dirais que ça peut ralentir, oui, parce qu'il y a de la désinformation. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est. On ne peut pas comparer une monnaie numérique de banque centrale qui est contrôlée par une entité, donc qui est centralisée, qui n'a pas de limite d'émission, qui permet un contrôle total avec Coin, qui est décentralisé, ça veut dire n'appartient à absolument personne et du coup est accessible dans le monde entier, avec une limite d'émission qui est déjà prévue. On ne peut pas faire n'importe quoi avec Bitcoin et pseudonymisé. Alors, un petit truc d'ailleurs là-dessus, un petit aparté quand même avec Bitcoin, on dit souvent que c'est anonyme. C'est faux. C'est pas anonyme. C'est pseudonymisé. Alors, par pseudonymisé, ça veut dire que en règle générale, une personne est associée à une clé publique.
À une clé, oui.
Mais par contre, on n'est pas... Alors, aujourd'hui, ça dépend si vous passez par des plateformes centralisées ou pas pour les acheter. Pour les acheter, si c'est Coinbase, Binance, vous allez être obligé de donner votre carte d'identité, etc. C'est ce qu'on appelle le KYC. Donc là, on sait que qui détient quoi. Mais par contre, il y a une fois que j'ai mes bitcoins, si je les envoie directement à une autre adresse sans passer par ces plateformes, là, il n'y a pas moyen. Si la personne n'a pas acheté des bitcoins sur ces plateformes-là, il n'y a aucun moyen de savoir à la limite qui c'est. Mais c'est pseudonymisé, ça veut dire que vu que tout est public, c'est enregistré dans ce fameux registre qu'on appelle la blockchain, on peut savoir quelle adresse a envoyé combien à qui. Donc, je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour les citoyens de fliquer tous les petits échanges. C'est-à-dire les petits échanges de 10, 20, 100, 1000 euros ou francs CFA, il n'y a pas trop d'intérêt à vérifier ça. Parce que si on veut vraiment, parce qu'ils attaquent à chaque fois sur ce terrain-là de l'illicite et du banditisme, etc. Si on veut tracer et fliquer les gros montants, c'est possible de le faire sur la blockchain et c'est fait. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui analysent ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est incomparable, Bitcoin et les monnaies numériques de banque centrale. Mais vu que les gens ne sont pas informés, vu que les gens ne savent pas ce que c'est, alors oui, ça peut freiner parce que sans doute que si ça se met en place, sans doute que des gens l'utiliseront peut-être un peu. Avec un énorme risque, et d'ailleurs ils le savent pour les banques centrales, c'est de court-circuiter les banques commerciales.
Et c'est là où est le hic, parce que clairement de ce que tu as pu dire lorsque tu relatais l'histoire de la monnaie, sur les mécanismes, mais ce sont quand même les banques commerciales qui créent de la dette, c'est-à-dire qui passent un.
Mais elles ont en fait, si tu veux, faut imaginer que ça comme les banques centrales ne sont que les servantes des les banques commerciales ne sont que les servantes des banques centrales. La banque centrale augmente avec leur quantitative easing, c'est-à-dire je mets de la monnaie, dans ces cas-là, les banques commerciales peuvent créer des emprunts supplémentaires, mais elles sont obligées de respecter une certaine limite. Donc sauf comme je t'ai dit, dans certains États, comme l'Angleterre, par exemple, où là, a priori, il n'y a pas de limite. Mais en règle générale, il y a quand même des limites, si tu veux, parce que, je ne sais pas, ils se sont peut-être dit, ouais, ça va être trop gros, quoi. ça passera pas, il n'y aurait pas de limite. Mais voilà, elles sont, si tu veux, les banques centrales, c'est elles qui qui s'amuse en fait entre, enfin qui s'amuse, non, je vais pas dire qui s'amuse, mais c'est elle qui contrôle les banques commerciales. Après, les banques commerciales, entre guillemets, font ce qu'elles veulent, mais elles sont obligées de respecter certaines limites de réserve.
Mais là, du coup, s'il y a des monnaies digitales de banque centrale, avec tout ce que, avec toute la partie, on va dire contrat intelligent et tout qu'ils veulent mettre en place, ben là les banques commerciales, clairement, quel rôle elles vont jouer dedans? Elles jouaient le rôle effectivement de pouvoir effectivement arbitrer, prendre des commissions. D'ailleurs, elles ne fonctionnent que sur les commissions. Mais si elles ont plus, elles ne peuvent plus utiliser ces mécanismes de gestion de compte,
C'est là où ils sont très mal à l'aise, si tu veux, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça. En fait, autant la Chine peut le faire, parce que la Chine, elle a la main mise sur l'ensemble de son système bancaire, donc elle fait ce qu'elle veut, quoi. C'est-à-dire que si elle veut lancer leur yuan, elle va dire aux banques, de toute façon, c'est nous qui dirigeons, donc vous acceptez le yuan, et puis c'est tout. Dans les pays européens, occidentaux, Amérique, etc., ça va être beaucoup plus compliqué, parce que le problème, c'est que si on met une monnaie numérique de banque centrale, ce qui est très facile à faire, hein, ils peuvent le lancer normalement assez rapidement. Bon, encore faut-il avoir les ressources, on va dire, techniques pour le faire, mais elles pourraient le faire assez facilement. Le problème, c'est qu'elles vont court-circuiter les banques commerciales. Les banques commerciales n'auront quasiment plus aucun rôle à ce moment-là, parce que si moi je détiens des euros numériques de la banque centrale, Je n'ai plus aucun intérêt d'aller voir une banque commerciale, quoi. Si eux, ils peuvent me prêter. Donc, pour limiter ça, d'ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elles veulent en faire. Hein. Enfin, en Chine, on sait, en Europe, etc., ce sont des projets, et ils n'ont pas clairement indiqué, ça va aller jusqu'où, quoi. Jusqu'où vous voulez aller avec vos monnaies. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas parce qu'ils sont mal à l'aise. Parce que, du coup, soit ils disent, c'est open bar, ça veut dire que toute la monnaie va passer en monnaie numérique de banque centrale. Et dans ces cas-là, les banques commerciales ne servent plus à rien. Ou bien elles disent, ce qu'elles ont commencé à faire, on va donner seulement une certaine somme. C'est-à-dire, on va vous permettre d'utiliser 3 000 euros en euros de banque centrale, mais pas plus. Le reste, on continue. Donc, on voit que c'est un truc hyper bancal, quoi. Et ça, c'est un choix, juste, je rajoute, c'est un choix quand même très occidental, mais pas, les Américains ne partent pas là-dessus pour le moment, en tout cas. Les Américains, je pense, ont compris, à mon avis, que les crypto-monnaies vont déferler. Et du coup, les Américains ne proposent pas pour le moment de monnaie numérique de banque centrale. On veut en être. On veut être dessus. Parce qu'on n'a pas envie de perdre notre pouvoir. Ils sentent bien qu'il y a un gros risque de perte du pouvoir. Donc, si on regarde aujourd'hui sur la crypto-monnaie, ce qu'on appelle les stablecoins, les monnaies stables par rapport à d'autres monnaies, eh bien, elles sont quasiment toutes en dollars. Les Américains, en fait, je pense que les Américains voient le tsunami arriver. Et du coup, ils se disent, quitte à se faire, entre guillemets, déborder, autant que nous soyons les premiers sur le sujet. Et d'ailleurs, on voit bien que ce sont les entreprises américaines qui sont les premières en train d'investir dedans. Et donc, du coup, ils sont en train de reprendre, enfin, ils sont un peu en train de prendre le lead, en fait, là-dessus, parce que les stablecoins, tout est en dollars. Avec la différence que ils peuvent prendre le lead sur tout ce qui est stablecoin, mais par contre, ils n'ont pas le contrôle des bitcoins. Alors après, l'énorme risque, c'est que, enfin, pour moi, ce que je trouverais terrible, hein, c'est que, du coup, ce soit, par exemple, les Américains ou les Occidentaux qui aillent acheter en masse des bitcoins. Et là, et laissant les pays émergents du coup sur le carreau, si les pays émergents ne se disent pas, oh punaise, il faut qu'on y aille, c'est peut-être une occasion pour nous de rattraper un petit peu notre retard. Quoi.
Notre retard, oui.
Et c'est ce qu'a fait le Salvador. Enfin, le Salvador, je pense, a compris ça.
Et là, en ce moment, effectivement, la Tanzanie est en train de faire un gros travail au-dessus. La présidente tanzanienne a demandé à sa banque centrale de pouvoir étudier de très près les crypto-monnaies parce qu'elle dit qu'ils ne passeront pas à côté de cela. Donc, en ce moment, il y a des gouvernements quand même qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de faire un énorme travail au-dessus. Tout dernièrement, nous avons eu aussi le Parlement ouest de l'Afrique de l'Ouest qui a fait toute une session. Je crois ils avaient tout un séminaire sur l'impact des crypto-monnaies sur les échanges. Et je pense que eux aussi ils sont craints en ce moment de travailler au-dessus pour voir un peu et tout. Donc on va vers la fin, mais moi ça veut dire que qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique notamment peut faire pour pouvoir rentrer effectivement dans ce système et de pouvoir quelque part profiter de ce système maintenant, si tu as, je sais pas, en deux trois mots, on va vers la fin.
En deux trois mots, je pense que le Salvador, qui a adopté du coup le Bitcoin en tant que monnaie légale, a fait tomber le premier domino.
Ok.
Ensuite, est-ce que les pays africains, les pays d'Amérique du Sud aussi, hein, qui sont un peu dans la même situation que l'Afrique, est-ce que du coup ils vont faire tomber les prochains dominos? Je l'espère. Je l'espère parce que si les pays africains le font, là du coup ça va lancer une véritable boule de neige. Que les pays occidentaux ne pourront pas arrêter. D'ailleurs, ils ont bien du mal déjà à l'arrêter alors que c'est une petite boule. Mais si d'autres pays emboîtent le pas au Salvador, alors ce sera quasiment impossible à arrêter. Et ce dont a besoin la planète aujourd'hui pour rétablir les équilibres, c'est une monnaie référence pour tout le monde. Parce que le problème, c'est que si chacun a sa monnaie, chacun tire la couette de son côté. Et donc, du coup, de toute façon, les Américains avec le dollar vont faire en sorte que le dollar soit plus puissant. Les Chinois vont faire en sorte que le yuan numérique soit plus puissant. Si les pays qui sont, on va dire, en bas, et ce n'est pas péjoratif de ma part de dire ça, si les petits pays, en tout cas financièrement parlant, décident de se dire « mais c'est un truc extraordinaire que cette espèce de monnaie qui pourrait être l'étalon mondial, il faut que nous en ayons de manière à démocratiser ce truc-là. Après, je pense que rien n'empêchera d'autres crypto-monnaies d'éclore et une monnaie étalon mondial comme a pu être l'or à un moment donné, je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, beaucoup dans la crypto-monnaie ont annoncé la mort du Bitcoin pendant 10, 20, 30 fois. Et en fait, le Bitcoin n'est pas mort. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'un intérêt technologique, il a un intérêt géopolitique énorme. Il peut devenir la monnaie d'échange pour les commerces internationaux.
Ok, en tout cas, merci Emmanuel pour le temps que tu as pu nous donner. Et moi, je retiens effectivement le caractère géopolitique que peut avoir le Bitcoin. J'espère que ça serait peut-être avec toi qu'on pourra la prochaine fois peut-être en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a très peu de temps parfois pour le faire. Ok, mais vraiment, je te remercie et je voilà quoi. J'espère que ce podcast sera aussi suivi par des personnalités publiques en Afrique et qu'ils essaieront de pouvoir creuser parce que effectivement il faut prendre connaissance de quelque chose, il ne faut pas écouter juste ce que la télévision, parfois vos adversaires, parce que ce sont des adversaires politiques, des adversaires économiques, peuvent vous dire. Il faut vous-même que vous preniez la tension, que vous preniez le pouls pour pouvoir effectivement vous prendre les meilleures décisions toujours pour votre peuple ou toujours pour votre pays. Voilà. Allez, Emmanuel, en tout cas, c'est fini là, mais nous, on se capte juste après le podcast, comme d'habitude.
Pas de souci. Merci à tous.
Allez.
Merci.